Les commissaires viennent de faire leur entrée. Isabelle et Hélène, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Steve.
On rappelle aux gens, ce soir 19h, on vous invite à suivre les résultats de cette longue campagne électorale que vous avez suivie sur nos ondes le matin, le midi.
Une longue campagne et probablement une longue soirée.
Oui. On sera
là.
Probablement. Très probablement. On invite les gens surtout à voter. Hein, d'abord et avant tout, remplissez votre devoir de citoyen. Je rappelle, l'idée de Dominique Vallière est très bonne. Là. C'est prouvé que d'amener vos enfants à voter avec vous, ça provoque, ça a tendance à faciliter par la suite le vote une fois qu'ils seront devenus adultes.
Oui, oui, je trouve que c'est une excellente idée.
Le DGEQ a aussi toute une petite mis en place un petit atelier pour les enfants. Donc, ils peuvent aller voter. Ils ont un bulletin de vote avec pourquoi est-ce que c'est important d'aller voter. Ils peuvent choisir quelque chose. On leur donne un tatou quand ils ressortent. Moi, je l'ai fait au BVA avec mes enfants. Gros succès.
Mais j'ouvre une parenthèse. Oui. J'ai appris ça tout récemment. Peut-être le savez-vous déjà, mais en Australie, si tu ne vas pas voter, on te taxe. Ouais, mais ça, je savais pas ça. Là.
Ben, moi, j'ai pas l'idée.
Moi
non plus. T'amènes ça ce matin.
Ouais.
Devrait-on le faire?
Ben, moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être mettre cet incitatif-là. Manifestement, le taux de participation serait nettement plus élevé. Mais c'est dommage, par exemple, d'être obligé de le faire pour inciter les gens à voter.
Puis, tu sais, on jase, là, mettons, puis c'est pas obligé d'être cher. Moi, je dis 10$, ce serait suffisant.
Absolument, absolument.
Pour que les gens se. Tu sais, 10$ à la fin, l'impôt, là, as-tu voté?
Dire, après tout, il y en a des millions de personnes qui gaspillent une pièce pour voter à Occupation Double ou toutes ces affaires-là.
Ben oui, tout à fait.
Oui, mais bon, en même temps, est-ce que l'accessibilité est suffisante? On verra aujourd'hui, tu sais, mais il y a toute la question du vote électronique, des votes à distance, les applications, les bureaux de vote.
Bon, ben taxons les gens qui n'ont pas voté, puis utilisons cet argent-là pour innover dans notre système.
On va en parler d'ailleurs d'innovation.
Bien sûr. On a parlé tout au long des différents partis. Alors là, on verra demain le résultat des courses. Je rappelle, on invite les gens à vous suivre ce soir. Martin Pelletier qui sera à la barre de la version locale avec toute l'équipe de journalistes qui sera sur le terrain dès 19h ce soir au 107.7 Estrie. On parle d'Alena ce matin. Ça s'est comme invité pas mal, de force. Signature in extremis hier, minuit moins une.
In extremis, puis quelle concession on a fait quand même, c'est incroyable. On savait que sur la gestion de l'offre, il allait y avoir des concessions, on s'en attendait, ça fait un bout qu'on en parlait. Mais là, visiblement, c'est la troisième entente de libre-échange sur laquelle qui se fait sur le dos de nos producteurs laitiers. C'est un autre, on a beau dire, nos leaders ont eu beau dire qu'ils allaient défendre la gestion de l'offre, on voit que c'est encore nos producteurs laitiers qui en font les frais.
Et Justin Trudeau lui-même l'avait dit en passant, qu'il ne ferait pas de concession.
Ben, il y a toutes sortes de traductions au mot concession, manifestement.
Mm-hmm.
Mais moi, je ne suis pas surprise du tout. T'sais, Donald Trump l'avait dit, c'est ce qu'il voulait. Il voulait, à un moment donné, qu'on lâche du lousse un peu sur la gestion de l'offre. Puis c'est exactement ce qu'on a fait. C'est exactement ce qu'on a fait aussi sur l'accord Asie-Pacifique. Alors, ça fait à peu près 7% de notre marché là, qu'on laisse à la concurrence internationale. C'est sûr que j'écoutais les représentants des producteurs, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la moitié des producteurs laitiers se retrouvent au Québec. Donc, c'est le Québec qui est frappé de plein fouet, en fait, là, qui aura à subir ce changement-là. Puis je les écoutais ce matin, puis manifestement, ils ne sont pas contents. Mais en même temps, je me dis toujours qu'à chaque... ce qui peut nous apparaître comme un échec, il y a une fenêtre d'opportunité. Et dans ce cas-ci, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la gestion de l'offre fait en sorte qu'on maintient les prix, puis que oui, nos producteurs fournissent le Canada, mais en même temps...
C'est une production garantie.
C'est une production garantie.
On dit voici ce que tu vas avoir cette année.
Il ne faut pas oublier une chose. Tu
as du gaspillage.
Alors, supposons qu'on disait, on est rendu dans une situation où on pourrait peut-être, au lieu de se dire qu'on va jouer à la victime, c'est qu'on sait que notre lait est meilleur. Au niveau environnemental, on respecte des normes qui sont nettement plus élevées. On n'utilise pas d'hormones de croissance. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de ça pour, par exemple, au lieu de prendre le 300 millions que le gouvernement semble vouloir donner aux producteurs, de prendre ça d'en faire une campagne promotionnelle incroyable à travers les États-Unis, entre autres, puis positionner le lait canadien ou les produits laitiers canadiens comme des produits de luxe, nettement un peu plus chers, mais mieux faits, plus environnementaux, meilleurs. Je pense juste au fromage, par exemple. T'as personne qui fait des bons fromages en Amérique du Nord comme les Québécois. Ben, il y a quelque chose à faire là-dessus. Moi, je pense qu'il faut le voir comme une opportunité.
En même temps, tu sais, je veux bien, mais... puis peut-être que je suis pessimiste, là, mais nos producteurs laitiers, c'est la troisième fois qu'ils font des concessions. Ils sont dans une situation où, tu sais, dans le cas de l'entente de libre-échange avec l'Europe, oui, il y a eu des compensations, mais c'était des compensations qui étaient associées à des investissements. On a mis de la pression sur nos producteurs pour qu'ils se modernisent, pour qu'ils innovent. En même temps, tu sais, je veux dire, c'est de l'agriculture, là, c'est pas aussi simple d'innover en matière de productivité en agriculture que dans un secteur manufacturier où c'est des machines. Là, on parle d'animaux. C'est pas évident. Ils subissent cette pression-là. À un moment donné, il va falloir se demander aussi quel genre d'agriculture on veut. Tu sais, on est là, nous, à apprécier les nouveaux marchés publics, les paniers bio, un certain mouvement d'achat local, mais en contrepartie, nos producteurs font face, en plus de la pression sur le libre-échange, de l'accaparement des terres, de l'étalement urbain, d'enjeux de relève. De plus en plus, les terres, ils sont plus propriétaires de leurs terres. Fait qu'à un moment donné, si ce qu'on souhaite, c'est que ce soit des agriculteurs possèdent leur ferme, si ce qu'on souhaite, c'est maintenir une agriculture auquel on peut avoir accès au producteur lui-même, il va falloir qu'on pose des gestes concrets et solides pour protéger ce type d'agriculture-là, puis qu'on impose ça au reste du Canada.
Moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. T'as quand même 93% du marché canadien qui va rester aux producteurs locaux. Mais encore une fois, tu parlais d'innovation tantôt, Isabelle. Moi, je pense que c'est le temps de le faire, là. C'est le temps d'innover, puis d'avoir confiance en nous, puis de regarder le marché, là, qui est le gros, gros marché à côté, puis de dire on pourrait sûrement se développer une niche de produits de haute qualité.
Sur le fromage, peut-être. Sur le lait, c'est impossible.
Ben pourquoi, mais pourquoi c'est impossible?
Les coûts.
Tu fais juste...
regarde
mais
le coût de notre...
Attends un peu. Le marché américain, là, il y en a une certaine frange des gens qui vont manger bio puis qui aiment ça. Là. Si tu positionnes le lait canadien comme étant un lait sans hormones, de luxe, j'aime pas le terme de luxe.
Ben,
mais
t'as pas le choix de dire ça comme ça quand même.
Ben, appelons ça comme ça parce que le prix, effectivement, sera supérieur. Mais pas d'hormones, des normes environnementales élevées, le goût du lait est nettement meilleur aussi. Ben, peut-être que là, effectivement, tu vas aller chercher une clientèle qui va outrepasser et de loin le 7% que tu risques de perdre au Canada.
En même temps, j'ai de la misère à croire que ça puisse compenser pour
les impacts
que ça aura.
Mais de toute façon, tu n'as pas le choix, Isabelle.
C'est fait.
On n'a pas le choix, là. Il va falloir qu'on voit autrement, puis en affaires, puis là, je parle comme ça, il faut que tu y vois une opportunité. On n'a pas le choix parce que quand même qu'on jouerait à victime longtemps, okay, c'est juste nous qui
allons
perdre.
Mais ça, c'est pour les entrepreneurs, puis en affaires, comme tu dis. En
ben,
politique,
les
par
agriculteurs,
contre,
sont des entrepreneurs.
Il faut reconnaître qu'encore une fois, c'est le Québec qui fait les frais au profit du secteur de l'auto, puis ontarien. Puis l'autre affaire qu'on n'a pas gagnée dans cette entente-là, là, c'est les tarifs douaniers sur l'acier, sur l'aluminium.
Ah oui, oui,
on
en principe, demeure là.
On n'a rien.
Et encore
en principe, demeure là.
Et encore une fois, c'est une entreprise québécoise.
Non, mais ça, je suis d'accord. Pour l'ensemble de la négociation, c'est un gros, gros échec.
Et quel argument, quel faux argument, entre vous et moi, là, le mécanisme de régulation, quel pays va pas en installer un dans ce genre d'accord-là?
C'est clair.
Ah, mais là, écoute, ils ont fait une grosse concession. Va chez le bonhomme!
Mais non, mais c'est même pas une concession, c'est quelque chose qui existe.
C'est un automatisme.
Oui, c'est ça qu'ils voulaient enlever.
C'est clair.
T'sais, dans tous les cas, là, ça va être le dossier du nouveau gouvernement québécois qui s'installe demain. Puis c'est quand même incroyable que ça se passe dans un moment où on est en position de faiblesse, hein, on n'a pas de gouvernement, à la veille d'une élection aussi. Tu sais, ça serait passé il y a
celui
quelques semaines.
Celui qui en parle, c'est Jean-François Lisée, là, actuellement.
Puis, quel que soit le gouvernement...
Oh, ils vont tous aller du même sens. Là. Peu importe qui est gagnant demain matin.
C'est
là.
Ça, François Legault, il a dit, garde, là, c'est plus le temps de faire de la politique, il faut se mettre ensemble pour dénoncer ce qui vient de se passer.
Il va falloir que ce gouvernement-là mette ses culottes. Il n'y a pas beaucoup de moyens d'intervenir légalement, à part peut-être ne pas adopter la réglementation pour la mise en œuvre de l'entente. Il n'y a pas d'approbation nécessaire de l'Assemblée nationale pour que ça soit mis de l'avant.
Il y a moyen légal, mais on ne veut pas aller là.
C'est ça. Par contre, il va falloir gérer, minimiser les impacts, aller chercher à Ottawa des compensations substantielles.
Ben moi, ces compensations-là, je m'en servirais pas pour compenser justement les producteurs, mais pour faire une campagne de pub puis nous positionner autrement. Parce que là, c'est bien beau, là, le 300 millions one-shot deal, mais après ça, tu fais quoi? T'es pas plus avancé. Alors, regardons de l'avant, soyons innovants, puis tentons de faire en sorte que nos produits d'excellence, on puisse les vendre.
Mais c'est clair
aux
que
Américains.
Les compensations, c'est pas une panacée, c'est pas structurant.
Non, mais c'est ça.
C'est... Non.
Grosse campagne de pub.
Merci beaucoup d'avoir été là ce matin, avoir du plaisir.